Chapitre 13. Le poêle avait fini par s'allumer tout à fait. La salle s'était réchauffée, le thé était versé dans les verres et les tasses, et l'on avait étalé, près du thé, toutes les friandises du souper. Du pain blanc et du pain de seigle, des œufs durs, du beurre, de la tête de veau et des pieds de veau. Tout le monde s'était rapproché de la couchette qui servait de table, et l'on buvait, et l'on mangeait, et l'on bavardait. Assise sur un coffre, la Rantseva remplissait son emploi de dame de la maison. Seul Kryltsov ne s'était point mêlé au groupe. Il avait ôté sa pelisse mouillée pour s'envelopper dans un plaid qu'on venait de lui faire sécher, et, étendu sur sa couchette, il causait amicalement avec Nekhludov. Après le froid et l'humidité de la route, après la saleté et le désordre qu'on avait trouvé en arrivant à l'étape, après la peine qu'on avait dû se donner pour tout mettre en ordre et pour préparer le souper, ce souper et le thé chaud et la bonne chaleur de la salle mettaient tous les condamnés dans une disposition d'esprit joyeuse et bienveillante. Les cris, les injures, le grossier vacarme des condamnés de droit commun, qu'ils entendaient de l'autre côté du mur, fortifiaient encore en eux, par contraste, cette agréable sensation de bien-être et d'intimité. Ils avaient l'impression d'être comme isolés sur une île, au milieu de l'océan. Et cette impression les exaltait, leur causait une sorte d'ivresse intellectuelle, où ils oubliaient tout à fait l'horreur de leur situation pour se laisser aller librement à leurs rêves. Et puis, ainsi que cela arrive toujours entre de jeunes hommes et de jeunes femmes, surtout quand ils se trouvent forcés de vivre en commun, toutes sortes de liaisons sentimentales s'étaient établies entre eux, conscientes ou inconscientes, ouvertes ou cachées. Tous, ou du moins presque tous, ils étaient amoureux. Novodvorov était amoureux de la jolie et souriante Grabets. C'était une jeune étudiante, d'humeur fort peu réfléchie et parfaitement indifférente aux problèmes révolutionnaires. Mais elle avait cédé à l'influence de son temps, s'était compromise dans certains complots et avait été condamnée à la déportation. Et de même que, à l'université, sa principale préoccupation avait été de se faire faire la cour par les étudiants, de même, elle ne s'était point préoccupée d'autre chose depuis son emprisonnement. À présent, elle était toute heureuse parce que Novodvorov s'était épris d'elle et qu'elle-même était devenue amoureuse de lui. Vera Efremovna Bogodushovska, très sentimentale et qui avait passé toute sa vie à aimer sans espoir, soupirait secrètement, tantôt pour Nabatov, tantôt pour Novodvorov. Et c'était aussi quelque chose comme de l'amour qu'éprouvait Kryltsov à l'égard de Marie Pavlovna. Ou plutôt, il l'aimait très réellement, à la façon dont les hommes aiment les femmes. Mais, connaissant ses opinions au sujet de l'amour, il s'ingéniait à cacher son sentiment sous des dehors d'amitié et de reconnaissance. Nabatov, lui aussi, était amoureux. Une étrange liaison s'était formée entre lui et Émilie Rantseff. Une liaison d'ailleurs toute innocente, car de même que Marie Pavlovna était de toute son âme une véritable jeune fille, de même la Rantseva était le type de la femme, de l'épouse parfaite. À 16 ans, encore en pension, elle s'était éprise de Rantseff, qui était alors étudiant à l'université de Pétersbourg. 3 ans après, elle s'était mariée avec lui. Puis Rantseff, pour avoir pris part à des troubles universitaires, avait été déportée. Elle avait interrompu ses études de médecine pour le suivre. Et comme il était devenu révolutionnaire, elle l'était tout de suite devenue aussi. Si son mari n'avait pas été à ses yeux le plus beau, le plus intelligent et le meilleur de tous les hommes, elle ne l'aurait pas aimé et ne se serait pas mariée avec lui. Mais l'ayant aimé et s'étant mariée avec lui parce qu'il était à ses yeux le plus beau, le plus intelligent et le meilleur des hommes, elle eût jugé monstrueux de concevoir la vie autrement que lui. Et lui, d'abord, il avait conçu la vie comme devant être consacrée à l'étude, de sorte que, elle aussi, elle avait considéré l'étude comme l'occupation idéale, et s'était mise à étudier la médecine. Puis son mari était devenu révolutionnaire. Elle était devenue révolutionnaire. Elle était aussi capable que chacun de ses compagnons d'expliquer comment le régime social actuel était injuste, et comment tout homme avait le devoir de lutter contre lui pour le remplacer par un régime nouveau, où la personnalité humaine pourrait se développer librement, etc. Et elle croyait de tout cœur que c'était là ses propres sentiments et pensées. Mais, en réalité, elle pensait seulement que ce que pensait son mari était la vérité, et son unique rêve, son unique plaisir, était de s'unir pleinement à l'âme de son mari. À la suite de nouveaux troubles où elle avait pris part, on l'avait séparée de son mari et de son enfant, et cette séparation lui avait été très cruelle. Mais elle la supportait avec fermeté, sachant qu'elle la supportait et pour son mari, et pour cette œuvre qui était certainement digne de tous les sacrifices, puisque son mari se sacrifiait pour elle. En pensée, elle restait toujours avec son mari. Et de même qu'elle n'avait aimé personne avant lui, elle ne pouvait aimer désormais personne autre que lui. Mais l'affection pure et dévouée de Nabatov la touchait et lui faisait plaisir. Lui, homme essentiellement moral et habitué à vaincre ses désirs, il s'efforçait de traiter Émilie comme une sœur. Et cependant, dans ses rapports avec elle, transparaissait par instants quelque chose de plus que l'affection d'un frère pour une sœur. Et ce quelque chose les inquiétait tous deux et leur faisait secrètement plaisir. Ainsi, personne dans le groupe n'était affranchi des préoccupations amoureuses, à l'exception de Marie Pavlovna et de l'ouvrier Markel. Chapitre 14. Attendant le moment où, après le souper, il pourrait s'entretenir en particulier avec Katyusha, comme il faisait toujours quand il venait passer la soirée à l'étape, Nekhludov restait assis près de Kryltsov et causait avec lui. Il lui raconta, entre autres choses, la façon dont il avait été abordé par la force à Macaire et tout ce qu'il savait de l'histoire de ce malheureux. Kryltsov l'écoutait avec attention, fixant obstinément sur lui ses grands yeux brillants. « Oui, c'est ainsi, » dit-il tout à coup. « Je pense souvent à ce qu'il y a d'étrange dans notre situation. Nous allons en Sibérie avec ces gens-là. Que dis-je, c'est pour ces gens-là que nous y allons. Et cependant, non seulement nous ne les connaissons pas, mais nous ne cherchons même pas à les connaître. Et eux, pour comble, ils nous détestent et nous considèrent comme leurs ennemis. N'est-ce pas affreux ?»«
Il n'y a là rien d'affreux, » déclara Novodvorov, qui s'était rapproché du lit de Kryltsov.
Les masses sont toujours grossières et incultes. Elles n'ont jamais le respect que pour la force, poursuivit-il avec sa voix sonore. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui détient la force. Ces gens-là respectent le gouvernement et nous détestent. Demain, si c'est nous qui prenons le pouvoir, ce sera nous qu'ils respecteront. Au même instant, on entendit dans la salle voisine des coups frappés sur le mur, des bruits de chaînes, des cris et des hurlements. On battait quelqu'un qui appelait au secours. « Les entendez-vous, ces bêtes féroces ? Quel rapport voudriez-vous qu'il y eût entre elles et nous ?» dit tranquillement Novodvorov. « Des bêtes féroces, dis-tu ? Or, voici justement que Nekhludov vient de me raconter ce qu'a fait un de ces hommes. » Et Kryltsov, d'un ton irrité, répéta le récit de Nekhludov, disant comment le forçat Macaire avait risqué sa vie pour sauver un de ses compagnons. « Est-ce là le fait d'une bête féroce » demanda-t-il. « Sentimentalité, » fit Novodvorov avec son sourire ironique. « Comme si nous pouvions comprendre les pensées de ces gens-là et les motifs de leurs actes. Ce que tu prends pour de l'héroïsme, c'est peut-être simplement de la haine pour un autre forçat. « Et toi, jamais tu ne veux rien voir de bien chez les autres !» s'écria Marie Pavlovna, qui tutoyait tous ses compagnons. « Pourquoi verrais-je ce qui n'existe pas ? Comment ne pas admirer un homme qui s'expose volontairement à une mort affreuse ?»«
J'estime, » déclara sèchement Novodvorov, « que si nous voulons accomplir notre œuvre, la première condition doit être de ne pas rêver et de voir toujours les choses comme elles sont. » Markel, fermant le livre qu'il lisait sous la lampe, s'était rapproché, lui aussi, et recueillait pieusement toutes les paroles de l'homme qu'il avait pris pour son maître. Et Novodvorov poursuivait, d'un ton résolu et solennel, comme s'il faisait une conférence. « Notre devoir, disait-il, est de tout faire pour le peuple, mais de ne rien attendre de lui. Le peuple doit être l'objet de nos efforts, mais il ne saurait collaborer avec nous, aussi longtemps du moins qu'il restera dans son état présent d'inertie. » Rien ne serait plus illusoire que d'espérer du peuple le moindre concours, jusqu'au jour où s'accomplira son évolution intellectuelle, l'évolution à laquelle nous le préparons. Quelle évolution ? Demanda Kreltsov, se relevant sur sa couchette.
Nous faisons profession de lutter contre le despotisme. Mais est-ce qu'une telle façon d'agir n'est pas un despotisme aussi révoltant que celui que nous prétendons détruire ?
Où vois-tu là du despotisme ? Répondit, sans s'émouvoir, Novodvorov.
Je dis seulement que je connais la voie que doit suivre le peuple pour se développer, et que je puis lui indiquer cette voie.
Mais qui te permet d'affirmer que cette voie que tu lui indiques est la bonne ?
N'est-ce pas au nom des mêmes principes qu'a été organisée l'Inquisition ? N'est-ce pas au nom des mêmes principes que la Révolution française a commis ses crimes ?
Elle aussi, elle croyait avoir trouvé dans la science l'indication de la seule voie qui fût bonne à suivre.
Le fait que d'autres se soient trompés ne prouve pas nécessairement que je doive me tromper aussi.
Et puis il n'y a pas d'analogie à établir entre les niaiseries des idéologues et les données positives de la science économique.
La forte voix de Novodvorov remplissait toute la salle. Personne n'osait l'interrompre.
« À quoi bon toujours se quereller ?» dit Marie Pavlovna quand il eut fini.
« Et vous, quel est votre avis là-dessus ? » demanda Nekhludov à la jeune fille.
« Je suis d'avis qu'Anatole a raison, et que nous n'avons pas le droit d'imposer nos idées au peuple. »
« Voilà une singulière façon de comprendre notre rôle, » fit Novodvorov.
Et, allumant une cigarette, il s'éloigna d'un air fâché.
« C'est plus fort que moi. Je ne puis pas causer avec lui sans me mettre hors de moi, » murmura Kreltsov à l'oreille de Nekhludov.
Et Nekhludov ne put se défendre de penser qu'il éprouvait lui aussi le même sentiment.
Chapitre 15. Malgré la considération qu'avaient pour Novodvorov tous ses compagnons, malgré toute sa science et la haute opinion qu'il avait de lui-même, Nekhludov le regardait précisément comme le type de ces révolutionnaires qui, étant naturellement au-dessous du niveau moyen, ne pouvaient que perdre à se trouver dans le milieu où ils se trouvaient. Il reconnaissait que, au point de vue intellectuel, Novodvorov était bien mieux doué que la moyenne des révolutionnaires. Mais il sentait que sa vanité et son égoïsme, devenus excessifs sous l'effet des circonstances de sa vie, avaient depuis longtemps stérilisé son intelligence. Toute l'activité révolutionnaire de Novodvorov, et bien que celui-ci sût toujours la justifier éloquemment, en lui prêtant les motifs les plus admirables, apparaissait à Nekhludov comme uniquement fondée sur l'ambition, le désir de dominer et de se faire valoir. Doué d'une aptitude extraordinaire à s'assimiler et à exprimer clairement les idées d'autrui, Novodvorov, d'abord, s'était sans peine imposé à l'admiration de tous, dans les milieux où cette aptitude est particulièrement appréciée. Au collège, puis à l'université, ses maîtres et ses condisciples avaient rendu hommage à sa supériorité. Et il s'était senti parfaitement satisfait. Mais quand, ses études achevées, cette situation avait pris fin, il n'avait pu se résigner à y renoncer. Et c'est pour dominer de nouveau, dans une autre sphère, qu'il avait brusquement changé d'opinion. De libéral progressiste qu'il avait été jusque-là, il était devenu ardent révolutionnaire. L'absence complète en lui des qualités morales et esthétiques qui produisent le doute et l'hésitation lui avait permis de prendre vite dans le parti révolutionnaire cette place de chef qu'il convoitait par-dessus toute chose. Dès qu'il avait arrêté une résolution, jamais il ne doutait, jamais il n'hésitait. Et par suite, il avait toujours la certitude de ne pas se tromper. Tout lui paraissait simple, clair, incontestable. Et avec l'étroitesse de ses vues, le fait est que toutes ses idées étaient simples et claires, car, comme il aimait à le répéter, on n'avait qu'à être logique pour discerner infailliblement le vrai du faux. Sa confiance en lui-même était si grande que personne ne pouvait l'approcher sans subir sa domination ou sans être forcé de lui résister. Et comme il avait affaire surtout à des jeunes gens, qui prenaient sa confiance en lui-même pour de la profondeur de pensée, la plupart de ses compagnons s'étaient soumis à sa domination, de sorte qu'il n'avait point tardé à obtenir une énorme popularité dans les cercles révolutionnaires. Il prêchait la nécessité de préparer par tous les moyens une révolution qui devait lui permettre de s'emparer du pouvoir et de convoquer une assemblée constituante. Il avait déjà rédigé le programme de réforme qu'il dicterait à cette assemblée. Et il était pleinement convaincu que ce programme résoudrait définitivement toutes les questions
et que rien ne pourrait s'opposer à sa réalisation. Ses compagnons le craignaient. Ils estimaient sa hardiesse et sa décision, mais ils ne l'aimaient pas. Et lui, de son côté, il n'aimait personne. Tout homme qui avait quelque qualité personnelle lui apparaissait comme un rival. Et volontiers, s'il l'avait pu, il aurait ôté aux autres hommes toutes leurs qualités, simplement pour les empêcher de détourner de son propre mérite l'attention publique. Il n'avait de complaisance que pour ceux qui s'inclinaient devant lui. C'est ainsi que, dans le trajet du convoi, il ne faisait bonne mine qu'à l'ouvrier Markel, qui avait aveuglément adopté toutes ses idées, et à deux femmes qu'il devinait éprises de lui, Vera Efremovna et la jolie Grabetz. En principe, Novodvorov était partisan de l'émancipation de la femme. Mais en fait, il regardait toutes les femmes comme des créatures stupides et ridicules. À l'exception de celles dont il était amoureux, et qu'il tenait alors pour des êtres extraordinaires, dont lui seul avait su juger la perfection. Il avait ainsi aimé, tour à tour, un grand nombre de femmes, et deux fois même il avait vécu maritalement avec des maîtresses. Mais les deux fois il avait quitté ses maîtresses, ayant constaté que ce qu'il éprouvait pour elles n'était pas le véritable amour. Il se préparait maintenant à contracter une nouvelle union avec la Grabetz. Il méprisait Nekhludov parce que celui-ci, suivant son expression, « faisait les manières » avec la Maslova. Mais en réalité, il le méprisait et le haïssait parce que, loin de partager ses idées sur les moyens de remédier aux défauts de la société, Nekhludov avait sur ce point une idée à lui, traitant les questions sociales en prince, c'est-à-dire en imbécile. Et Nekhludov se rendait compte de ses sentiments de Novodvorov à son égard. Et il sentait, à son grand chagrin, que malgré les dispositions bienveillantes où il se trouvait pour le moment, rien au monde ne pouvait l'empêcher d'éprouver, lui aussi, à l'égard de cet homme, un mélange de mépris et de malveillance.